Depuis deux semaines, nous avons le privilège de faire des travaux pour mettre l'électricité du premier étage aux normes. Et une des composantes essentielles de ce système électrique, c'est ce qu'on appelle... Je vois Julia qui sourit, et qui a travaillé de nombreuses heures et qui est un peu marre de ce projet d'électricité. C'est ce qu'on appelle les BAES, blocs autonomes d'électricité de secours. C'est les petits blocs qui sont derrière, au-dessus des portes, pour vous indiquer que la sortie c'est par là et pas par là, s'il y a un incendie qui fait nuit. Vous êtes dirigé par ces blocs autonomes d'électricité de secours. Là, il y a marqué « sortie » en français. C'est bien si on est dans un endroit où tout le monde comprend le français. Mais maintenant, la norme, c'est d'avoir des signes internationaux. Donc, au lieu d'avoir un signe qui dit « sortie », il y a un petit bonhomme qui court vers la sortie avec une flèche. Donc ça, normalement, même les gens qui ne comprennent pas le français devraient comprendre que c'est par là qu'il faut courir. Ce qui est intéressant, c'est que ce signal, ce bloc autonome de sécurité, il est obligatoire dans les endroits qui reçoivent du public. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'en fait, nous devrions être des BAES pour montrer aux gens vers qui courir, leur dire qu'il y a un grave danger, que les gens, s'ils ne font pas quelque chose, ils vont périr, ils vont être brûlés. Bien sûr, je veux parler de l'enfer qui est un endroit réel et nous devons montrer aux gens la direction vers laquelle ils doivent courir. Et Paul, aujourd'hui, dans notre passage, va nous rappeler vers qui il faut courir, comment il faut être sauvé. La parole est claire, il n'est donné parmi les hommes aucun autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous devons être sauvés. La sortie de ce mauvais pas où nous nous trouvons dans notre vie de pécheur, il y a un seul endroit. Et cet endroit, nous devons l'indiquer de façon claire, nous devons briller. Quand tout, le principe du bloc autonome, c'est que quand le courant est coupé, quand il n'y a plus d'électricité, les accumulateurs de ce bloc ont été chargés et d'un seul coup, il se met à briller très fort et il indique la sortie. Nous arrivons dans une période de plus en plus noire où nous devrions briller de plus en plus pour montrer aux gens leur seule solution. Il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez sortir, il faut aller par là. Vous ne pouvez pas aller par là, essayer de creuser un trou et monter avec une échelle. Ou peut-être qu'en creusant ce pilier qui est vide, qui a la commande de l'ascenseur, peut-être que vous pourriez monter, non, vous filez et vous n'avez qu'une seule solution. Là, il y a deux portes, mais avec Jésus, il n'y a qu'une seule porte. Amen. Tournez-vous avec moi, si vous le voulez, dans 2 Timothée, chapitre 2. Un bref rappel, pour ceux qui seraient ici pour la première fois, on lit une lettre inspirée par Dieu, par l'Esprit-Saint à Paul, qui l'adresse à son protégé, un jeune pasteur qui manque de confiance en lui, qui a une tâche difficile à Éphèse et qui aimerait bien, qui envisage de quitter son poste. Et Paul l'encourage et il nous encourage à travers lui à rester fidèle, à persévérer. On va voir les versets 8 à 13 aujourd'hui. Je vais juste relire pour replacer dans le contexte à partir du verset 1 du chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main et on vous en amènera une. Voilà. Je rappelle que si, if you don't understand French, you can ask for a headset with translation into English. Ça marche? Works? Tell me if it works, the translation. Yeah? Cool? OK. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Et notre passage aujourd'hui, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Arrêtons-nous là pour maintenant. Ce rappel, Paul utilise des images compréhensible de tous à l'époque et aujourd'hui encore, pour inviter Timothée et pour nous inviter tous à persévérer dans notre vie chrétienne, dans notre démarche, dans notre combat, dans notre course, dans notre travail de semence. La persévérance. Souvent, on envie les gens qui ont des talents remarquables, qui peuvent chanter, qui peuvent danser, qui peuvent parler, qui peuvent faire rire. Mais ce que le Seigneur recherche, ce sont des hommes fidèles, des hommes et des femmes fidèles. C'est un peu trivial de le dire, mais ce n'est pas vos capacités qui comptent, c'est votre disponibilité qui compte. Est-ce que vous êtes prêt à servir le Seigneur avec les quelques poissons, les quelques pains qu'il vous a donnés? Si c'est le cas, alors il n'y a pas de limite pour ce que Dieu peut faire. Et, on l'avait fait remarquer, on peut se fortifier dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et on peut répandre l'Évangile. Encore une fois, il faut persévérer, parce que le soldat qui s'arrêterait de combattre avant la fin de la bataille ne verra jamais la victoire. L'athlète qui s'arrêterait de courir avant l'arrivée de la course ne gagnera jamais la course. Ce qui arrive lorsque vous faites un claquage musculaire, vous êtes en train de courir un 200 mètres à toutes vos forces, à toute vitesse, et soudain il y a un muscle qui claque, des ligaments qui se déchirent, des cellules qui, d'un seul coup, vous êtes arrêté en plein vol. Le fermier, le laboureur, la troisième image qu'il utilise, qui s'arrêterait d'arroser ses semences ou de prendre soin, de désherber, qui s'arrêterait avant la moisson, mais elle ne verra jamais le fruit de son travail. Paul nous disait dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Cette idée de persévérer, elle est essentielle dans la vie chrétienne. On a rappelé aussi que ces trois exemples illustrent les trois opposants, les trois ennemis de tout chrétien. Il y a Satan contre qui il faut mener un combat, il faut être un soldat contre Satan. Il y a la chair, notre vieille nature qu'il faut dominer. C'est l'athlète qui doit dominer sa paresse, qui doit se dominer, serrer les dents, se lever tous les matins dans l'obscurité pour aller s'entraîner, avant que plusieurs années plus tard, il ait l'occasion de briller, peut-être d'être invité sur les plateaux de télévision parce qu'il a remporté la médaille d'or. Mais on oublie tout ce travail souterrain, tous ces sacrifices. Et puis finalement, il y a le combat contre le monde. Le monde non chrétien qui nous entoure, c'est représenté par les éléments, par la pluie, le froid, la neige, le gel, la grêle. Combien de fois les efforts du fermier, du laboureur sont presque anéantis parce qu'il y a un orage de grêle juste avant la moisson. Mais le bon fermier va se relever, va préparer une autre récolte pour l'année suivante. Et toutes ces images, ça doit nous parler, ça doit nous dire qu'en tant que chrétiens, nous devons persévérer, nous devons nous accrocher, nous devons faire confiance à Jésus, nous devons nous fortifier en lui. Et puis, pour encourager Timothée, pour nous encourager, il nous dit de nous souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il y a un autre passage dans Hébreu qui dit « Considérez Jésus-Christ ». Fixons nos pensées, rappelons-nous de ce que Jésus-Christ a fait, parce qu'il a été le meilleur soldat, il a remporté la victoire à la croix, il a été le meilleur athlète, il a remporté la course du salut, il est mort, il a tout accompli, il a dit « Tout est accompli ». Il avait passé la ligne finale. Et puis, ça a été le laboureur par excellence qui a semé l'évangile et qui l'a confié à d'autres laboureurs, à ses disciples, qui en retour, plutôt dans la suite, nous l'ont confié par l'intermédiaire de toute une chaîne de gens fidèles. Encore une fois, pas des gens parfaits, mais des gens fidèles. Des gens qui se sont investis, qui ont fait des sacrifices, des efforts pour transmettre cette bonne nouvelle. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est peut-être une l'exhortation que vous devez retenir ce matin. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus. Pense à lui. Trop souvent, nous l'oublions parce que nous sommes trop préoccupés par nos petits problèmes. Nous recherchons notre petit confort. Notre chair veut être soignée. On veut toujours avoir la première place. On veut être mince et svelte. Mais il suffit qu'on amène de la nourriture. Et tout le monde se précipite vers la table où il y a la nourriture. Des fois, il faut dire aux gens qui sont servis, « Maintenant, vous en allez, vous ne restez pas là. » On a notre chair, notre vieille nature qui n'est pas logique du tout, qui n'est pas consistante, qui n'est pas intelligente, mais qui veut, le désir. « Je veux toujours plus. » C'est le moteur de la publicité. C'est drôle parce que je me rappelle quand j'étais étudiant, on faisait des études de cas en économie sur la télévision. Et on pouvait agir sur certains paramètres, sur la recherche, sur la publicité, sur la qualité, sur le service après-vente. Et il y avait un système électronique, un système informatique qui donnait des résultats de vente et qui permettait d'ajuster un peu ces paramètres. À l'époque, je me souviens, il y avait déjà la télévision en couleur. Waouh ! Moi, j'ai connu la radio. Quand j'étais gosse, pour aller voir la télévision, il fallait sortir devant les magasins qui vendaient cette chose merveilleuse, où des gens s'agitaient en noir et blanc devant nous. Puis j'ai entendu un jour que la reine Élisabeth avait vu la télévision en couleur. Waouh, c'était quelque chose de fantastique. Puis la télévision en couleur s'est démocratisée, elle est devenue accessible et il y avait la télévision en couleur. Et lorsque, dans ce jeu de rôle économique, on nous disait d'agir sur certains facteurs, pour moi, la recherche, à quoi ça pouvait bien servir ? Maintenant, on avait la télévision en couleur. Sauf que l'écran, il faisait 54 cm de diagonale. Le poste, c'était un petit monument. C'était un petit hôtel qui faisait presque 70 cm de profondeur ou plus. Dont le son n'était pas... Et maintenant, il y a des panneaux. Et là aussi, on se dit, bon, ben maintenant, c'est fini, on est arrivé. Mais ils sont en train de passer du LCD au LED. Ça n'arrête pas, on veut toujours mieux, la chair veut toujours mieux. Et ça marche. Et puis, si nous nous souvenons de Jésus-Christ et nous oublions notre chair, nous allons penser aux autres. Parce que Jésus, par nature, il s'occupe des autres. Et on ne peut pas se souvenir de Jésus et être égoïste. On ne peut pas se souvenir de Jésus et mépriser d'autres hommes, d'autres groupes d'hommes. Si on se rappelle Jésus, Jésus-Christ, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'arrogance. Lui qui était Dieu lui-même, Fils de Dieu, parti de la divinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'est humilié jusqu'à la mort. Si nous nous souvenons de Jésus-Christ, alors nous évitons tous ces pièges, tous ces péchés. Quand vous êtes seul, souvenez-vous de Jésus-Christ. Peut-être que vous pouvez vous souvenir de moments où vous êtes senti très seul, des moments de spleen, d'angoisse existentielle. Je me rappelle, avant d'être chrétien, j'avais de ces moments, même quand on est tout jeune, quand on a une vingtaine d'années, on peut se dire, mais à quoi bon la vie, à quoi bon ? Et je ne connaissais pas Jésus. Dieu merci, il m'a amené à lui progressivement, à travers son plan, pour moi personnellement. Mais lorsque vous vous sentez seul, souvenez-vous de Jésus-Christ. Lorsque vous avez peur, je sais que parmi vous, il y en a très peu qui ont peur. Il y en a qui ont peur parmi nous ? Il y en a, on va poser la question à tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais peur ? Non, on ne va pas demander de vous. La peur, c'est un des sentiments qui nous colle à la peau en tant qu'humain déchu. On peut avoir peur du lendemain, comment on va vivre. Le travail, on peut avoir de la peur de la maladie, peur de la mort, peur des revers de fortune, peur de perdre l'amour d'un être cher. Mais Jésus nous a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Recevez ma paix. Lorsque nous avons peur, souvenons-nous de Jésus-Christ. Une chose des fois qui est plus difficile, c'est de se souvenir de lui quand tout va bien, quand ça baigne. En russe, on dit quand votre vie passe comme du beurre. Tout est facile, tout ce que vous entreprenez marche bien, vous êtes apprécié par votre entourage, vous avez beaucoup de joie dans le fond du cœur. Là aussi, souvenons-nous de Jésus-Christ. Disons-lui merci. Remercions-le pour les bonnes choses qu'il nous donne. Et souvent, lorsqu'on voit quelque chose de beau, on aime bien le montrer à quelqu'un. Quand il y a un beau coucher de soleil, c'est un peu dommage d'être seul. On a envie de partager cette belle émotion avec quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est là pour partager toutes vos émotions, de joie, de bonheur, de béatitude, comme de tristesse, d'injustice, de difficulté dans la vie. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jésus-Christ. Souviens-toi. Et puis Paul nous dit, c'est bien beau, on peut se souvenir d'un personnage historique ou d'une légende qui s'appellerait, comme on peut se souvenir du Père Noël. C'est intéressant, j'ai appris quelque chose cette semaine, voyez, je vais vous partager. À l'origine, le Père Noël était habillé en vert. Il était en costume vert. Et vous savez à cause de qui il est devenu rouge ? Coca-Cola. Il a été utilisé pour une pub de Coca-Cola. Ils ont décidé de le transformer en rouge. Mais on ne se souvient pas d'une légende, d'une image, de quelque chose pour faire vendre autre chose. On se souvient de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. Paul nous donne ici un raccourci de l'évangile. Il va dire à son protégé Timothée, dans quelques lignes, on le verra, encore une fois, c'est sa dernière lettre, les paroles essentielles qu'il veut transmettre à Timothée et à nous. Il va lui dire de faire un travail d'évangéliste. Vous savez qu'il y a le don d'évangéliste. Alors, pour ceux qui ne seraient pas bien au clair, le mouvement chrétien qui reconnaît la primauté de Jésus-Christ, de l'importance l'inspiration de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui considère que l'Évangile est le seul salut pour les hommes, c'est ce qu'on appelle les évangéliques. Les évangélistes, ce sont ceux qui annoncent l'évangile, que ce soit en public, dans une grande salle, devant un stade, comme Billy Graham ou d'autres grands prédicateurs, ou que ce soit vous qui partagiez avec votre grand-mère ou avec votre voisin, avec des parents, des amis, vous faites une œuvre d'évangéliste. C'est incroyable de voir les journalistes parler de notre foi en mélangeant évangélique et évangéliste. Les gens les plus brillants ne sont pas fichus de faire la différence. Et vous devez la faire et les corriger. Il y a des évangélistes évangéliques, mais tous les évangéliques n'ont pas nécessairement le don spirituel d'évangélisme. Par contre, tous les évangéliques, tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés à faire un travail d'évangéliste, à annoncer la bonne nouvelle. Encore une fois, si vous savez que la sortie c'est par là et que les gens sont en train de périr, ou vous savez qu'il va y avoir un feu dans la maison dans quelques heures ou dans quelques jours, vous n'allez pas dire « Oh, j'ose pas leur dire que la sortie c'est par là ». Ils vont penser que je suis fanatique. Ou ils vont penser que je suis un peu trop intolérant. Moi, j'ai envie de sortir par cette fenêtre là-haut. Ou pourquoi pas par celle-là. J'ai une meuleuse, je peux couper le métal là-bas et je ferai une sortie par là. Non, il n'y a qu'une solution et nous devons la partager autour de nous. Alors, encore une fois, c'est la peur souvent du qu'en dira-t-on de ce que les gens vont penser, où le moment n'est pas approprié. On va plutôt parler du match de rugby, le samedi matin. Est-ce que vous voulez parler du match de rugby le samedi matin ? Moi non. Parlons de l'évangile. Et l'évangile, Paul le raccourcit à plusieurs endroits. Un passage bien connu, c'est 1 Corinthiens 15, si vous voulez vous y tourner. Page 199 dans la Bible à la colombe, si vous avez une Bible qu'on vous a prêtée, passez. Je vous ai transmis verset 3 du chapitre 15 de 1 Corinthiens, avant tout ce que j'avais aussi reçu, et voilà. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Mais l'essentiel, Christ est mort pour nos péchés, selon ce que disait la parole. Il est mort, il a été enseveli, il est vraiment mort. Et il est vraiment ressuscité le troisième jour, comme les Écritures, comme la Bible l'annonçait. Et plein de monde l'a vu en réalité. Et les témoins sont encore là. Ça, c'est un premier résumé de l'Évangile. Souvent, les chrétiens ne savent pas comment présenter l'Évangile. Et ils se disent, ça, c'est l'affaire du pasteur ou des missionnaires ou des évangéliques, évangélistes, cet autre groupe-là. Non. Chacun de nous doit savoir dire qui est Jésus-Christ. Et là, verset 8, on revient à 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Et là, c'est pas. Rappelle-toi de la résurrection, du moment où il est revenu à la vie, c'est une bonne chose. Mais rappelle-toi de l'effet de cette résurrection. L'effet, c'est qu'il est vivant. On n'adore pas un homme historique, comme on pourrait dire, ah, j'aimais bien Henri IV. Il avait l'air sympa, il avait décidé que chaque Français pourrait avoir la poule au pot le dimanche. Ah, il était bien, il était sympa, et en plus, il était sur certains billets de monnaie à une époque. Non, on se souvient que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est toujours ressuscité, qu'il est vivant. C'est pour ça qu'on peut se souvenir de lui quand on est seul, quand on a peur, quand on est heureux. Il est là. Il est près de vous. C'est nous qui nous éloignons de lui. Il est ressuscité d'entre les morts et il est issu de la descendance de David. Le mot en grec, c'est issu de la sperma, de la semence de David. Ça rappelle son humanité. Il y a un homme dans la gloire. Jésus est complètement homme et Jésus est complètement Dieu. C'est difficile à, je l'admets, à complètement comprendre, mais c'est clairement ce que nous dit la parole de Dieu. Et le fait qu'il est parfaitement homme, ça veut dire qu'il peut sympathiser avec nos souffrances. Il sait ce que c'est que d'être un homme. Il sait ce que c'est que d'être fatigué, d'être tenté, même s'il n'a jamais succombé à la tentation. Il sait ce que c'est que d'avoir des espérances qui sont contrées. Il sait ce que c'est que la vie que nous menons. Et pourtant, il peut, en sa grâce, nous pouvons nous fortifier. Et il dit que cet homme, qui est ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, ça fait référence aussi au fait qu'il est le fils de David, c'était une expression qui désignait dans l'Ancien Testament le Messie. Donc ça correspond bien à son identité messianique. Pour les Juifs, c'était très important. Matthieu ne cesse de montrer que Jésus-Christ est le Messie qu'ils attendaient en prenant des prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies. Et il veut nous rappeler que c'est un homme et qu'il est le Messie. La carrière de Jésus-Christ, entre guillemets, n'a pas commencé à sa naissance à Bethléem, c'est prévu de toute éternité. C'est pas Dieu qui s'est dit, zut, j'avais un plan, là, j'avais créé l'homme pour qu'il m'aime et qu'il vive dans la justice, dans la sainteté. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant que ce plan a raté? Non, Dieu est en dehors du temps, il sait exactement ce que nous allions faire, mais il avait déjà envisagé. Et dans le conseil céleste du Père, des Fils et du Saint-Esprit, Jésus savait qu'il allait mourir pour les hommes, payer à notre place. Paul dit « mon évangile ». Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a un évangile pour chacun, que ça c'était l'évangile de Paul? Il y a régulièrement dans les kiosques à journaux pour faire vendre des feuilles de choux, des journaux avec des informations absurdes, on parle du nouvel évangile selon Thomas, le nouvel évangile selon Saint Glinglin, parce que la plupart des gens, ah, je savais bien qu'on ne nous disait pas tout, on ne nous dit pas tout, je savais qu'il y avait des choses secrètes, enfin on va savoir, non, tout est dit dans la parole, tout est annoncé. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre évangile. Lorsqu'il dit « mon évangile », c'est parce que c'est l'évangile pour lequel il est prêt à mourir. Il sait qu'il va mourir. L'épée, et il doit voir l'ombre de l'épée sur les murs de sa cellule de façon imagée. Il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et cet évangile pour lequel il a vécu, une fois qu'il a été converti sur la route de Damas, il veut le protéger, il veut le répandre, il veut qu'il soit connu, il veut montrer le BAES. Est-ce que l'évangile est votre évangile? Ou est-ce que c'est l'évangile qu'on lit dans la Bible? L'évangile, il y a plein d'évangiles. Je parlais des évangiles de la prospérité, l'évangile de Thomas, l'évangile de la prospérité, on va voir que c'est un mensonge ignoble. Tout ce que Dieu nous promet, c'est de la souffrance, du sang, des larmes. Comme le disait Churchill à l'Angleterre avant la guerre de 39-45. Son évangile, il ne lui a pas amené la prospérité. Il dit, verset 9, « pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens sont persécutés, sont traités comme si c'était des criminels de la pire espèce, alors que tout ce qu'ils font, c'est du bien, tout ce qu'ils font, c'est de dire la vérité avec amour. Et c'est intéressant de voir la réaction que provoque Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer sortir toute espèce de fausse religion et on vous laissera faire. Mais si vous prononcez le nom de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, vivant aujourd'hui, alors là, les réactions sont violentes. Pourquoi? Parce que il y a l'ennemi de vos âmes, Satan, qui inspire ces réactions contre la vérité de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominateurs dans les lieux célestes et dans les ténèbres d'ici-bas. Nous avons ces êtres au service de Satan qui s'opposent violemment, qui réagissent violemment. C'est une bonne chose lorsque les gens réagissent violemment à l'évangile. Pourquoi? Parce que quelqu'un disait, lorsqu'on jette un caillou sur une meute de chiens, celui qui aboie, c'est celui qui a reçu le caillou. Donc si quelqu'un réagit lorsque vous parlez autour de vous, sachez que Dieu est à l'œuvre et que Satan réagit. Il y a une lutte qui se passe pour l'âme de la personne. Et donc, Paul, qui était quelqu'un de remarquable, un grand érudit, un grand intellect, peut-être une des personnes les plus douées, le QI le plus énorme de l'histoire, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Il est traité comme un malfaiteur, à l'image de son maître, Jésus-Christ. Dieu lui-même qui a été traité de la façon la plus horrible, de la façon la plus honteuse, à qui on a donné la mort qui était réservée aux criminels les plus terribles. Et il est lié, il est enchaîné maintenant. Il y a une période où il était en détention dans une maison, à la fin du livre des Actes, mais maintenant, après l'incendie de Rome, Néron l'a fait emprisonner, il va le faire mettre à mort. Il est lié, comme un malfaiteur. Nous, on aime bien faire du bien, mais on aime bien qu'on nous remercie. Du moins, dans mon cas. Je le sais parce que je réagis quand on ne me dit pas merci. S'il y a une voiture que je laisse passer et que la personne passe sans faire un petit geste pour dire merci, oh, j'ai dit, si j'avais su, j'aurais pas venu, j'aurais pas laissé passer. J'ai cette réaction, je veux bien faire du bien, mais j'attends, ma chair attend du bien en retour. Il a annoncé l'évangile, il se retrouve emprisonné. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Tout ce passage, en fait, nous donne des mobiles pour accepter les sacrifices que la vie chrétienne implique. On a vu là la prééminence du Seigneur, de Jésus-Christ, qui est celui qui sauve, le seul par qui nous puissions être sauvés, le seul par lequel nous devions être sauvés. Il est dit dans Actes 4, 12. Et puis maintenant, c'est la puissance de la parole. Ça, c'est une raison de se sacrifier pour elle. La parole de Dieu n'est pas liée. C'est remarquable de voir le contentement de Paul. Paul nous dit dans Philippiens qu'il a appris à se contenter de sa situation. Il parlait dans un sens financier, mais là aussi, certains diraient « c'est terrible, tu vois, j'ai fait tous ces sacrifices et maintenant je me retrouve en prison, comme un malfaiteur ». Paul, il se réjouit parce qu'il dit « mais la parole de Dieu n'est pas liée ». La parole de Dieu, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'enchaîner. Dans la lettre aux Philippiens, il dira qu'il se réjouit parce que bien qu'il soit en prison, il nous dit que de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé, je m'en réjouirai encore. Il voit la situation, là aussi, il parlait de la prison, et il sait qu'en fait, le fait qu'il soit en prison, ça lui donne l'occasion d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle à ses gardiens. Il a un ministère en prison. Et il dit que la parole de Dieu n'est pas liée. La Bible a été l'objet d'attaques incessantes depuis les origines du christianisme. On a essayé de la brûler, on a essayé de la discréditer, on a essayé de la tourner en ridicule, de la comparer à la science, de dire que la science a prouvé que la Bible était fausse, alors que c'est l'inverse. Les découvertes scientifiques finissent toujours par confirmer ce qui est annoncé dans la parole. Les courants marins ont été découverts au XIXe siècle, la Bible en parlait. Ésaïe nous disait que la terre était ronde, était sphérique. Il a fallu attendre Ératosthène ou Copernic pour que la science rejoigne ce que disait la parole. La parole de Dieu n'est pas liée. Important de la connaître, de la partager, de donner des versets aux gens qui vous entourent. Elle n'est... Aujourd'hui, elle est annoncée par la voie des airs, par Internet. Alors, il y a plein d'autres choses aussi, mais la parole de Dieu, elle va toucher, parce qu'elle a cette puissance. Elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle peut couper jusqu'à la jointure entre les moelles et les os. Elle est active, elle est vivante, la parole de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler du Voyage du Pèlerin. C'est un ouvrage célèbre par un auteur de langue anglaise, John Bunyan, qui s'est retrouvé, qui était une allégorie de la vie chrétienne. Et il s'est retrouvé en prison lui aussi pour avoir annoncé l'Évangile, pour avoir prêché l'Évangile. Mais de sa prison, tous les dimanches matins, il se mettait à la fenêtre et il prêchait de toutes ses forces avec sa voix qui portait. Et on raconte qu'en fait, il y avait des foules qui venaient écouter John Bunyan. La parole n'était pas liée. Il était en prison, mais la parole de Dieu, nous dit Ésaïe, elle est différente. L'herbe sèche, les fleurs fanent, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Il y a une puissance dans la parole, une puissance de vie, une puissance de régénération qui est sans aucune autre comparaison. Une des raisons pour lesquelles on doit aussi endurer ces sacrifices, c'est le but, c'est la raison de cette œuvre d'évangélisation, de partager l'Évangile. Verset 10, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. » Si vous vous souvenez de la vie de Paul, ce n'était pas une vie de tout repos. Il a souffert des choses terribles. Et il le revendiquait lorsque des critiques disaient qu'en fait c'était quelqu'un qui n'était pas impressionnant, qui n'avait pas beaucoup de charisme en personne, qui avait une maladie des yeux, qui n'était pas très beau à voir, à regarder, à écouter. Il leur disait, c'est bien beau tous ces faux apôtres. Et il dit dans 2 Corinthiens 11, verset 22, sont-ils hébreux ? Est-ce qu'ils s'y connaissent ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la descendance d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils serviteurs de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Il n'hésite pas à revendiquer son travail, la qualité, l'intensité, l'extrémité de son sacrifice, pas pour se mettre en valeur, lui, mais pour justifier, pour authentifier, pour certifier que ce qu'il annonce est la vérité. Il défend le messager pour que le message ne soit pas rejeté. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les emprisonnements bien plus, par les coups bien davantage. Et puis là, il nous raconte, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans la mer. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Waouh ! J'ai dû me lever de bonne heure ce matin. Oh, je souffre pour le Seigneur. Au travail, il m'a regardé d'une drôle de façon quand j'ai dit que j'étais allé à l'église dimanche matin. Je suis persécuté. Et puis il ajoute, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Paul, ce qui le préoccupait, c'était la bonne santé des églises. Au-delà de son confort personnel, de ses besoins humain, personnel, il avait à cœur d'établir des églises saines qui puissent se reproduire et continuer dans l'œuvre de répandre l'Évangile. Et donc il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Alors ça fait référence à un sujet qui... sur lesquels on peut se perdre. Le principe de l'élection, comme quoi il y en aurait qui seraient appelés à être chrétiens, et puis d'autres qui ne le seraient pas. On peut dire, ben, c'est pas juste. Moi, je suis pas élu. Je crois pas en Dieu. Alors, si on en restait là, ouais, on pourrait dire que c'est peut-être pas très, très équitable. Mais la parole nous dit que tous ceux qui viennent à Christ seront acceptés. Donc si vous vous plaignez de ce que vous n'êtes pas chrétien, acceptez Dieu dans votre cœur, Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous serez ainsi élu. C'est une élection dont vous êtes responsable. Vous pouvez choisir d'être élu. Waouh, ça serait bien en politique. Hein. Quelle belle foire d'empoigne ça ferait. Non, avec Dieu, si vous venez à lui, si vous l'acceptez comme le seul espoir de salut éternel, de vie éternelle, il nous dit, je l'accepterai et vous serez mes élus. C'est pas de la prévision ou de la décision a priori, c'est le fait que Dieu est en dehors du temps, qu'il voit comment nous allons réagir. Et il sait si oui ou non, à la fin du compte, nous allons venir à lui ou pas. Mais à chaque fois, nous sommes responsables de notre choix. Alors peut-être que ce n'est pas très facile à réconcilier toutes ces options, mais c'est ce qu'annonce la Bible encore une fois. Ce n'est pas ce que nous imaginons, ce que nous pouvons établir en raisonnant, qui compte, c'est ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Et quand il y a des choses que j'arrive pas à réconcilier dans ma petite tête, mais qu'elles sont clairement annoncées, je dois les accepter comme des vérités en parallèle, des vérités toutes les deux. Et le fait que Dieu est souverain, c'est lui qui décide, et que j'ai une responsabilité, que je dois dire, j'ai la liberté de choix, ça nous paraît incompatible, mais c'est ce que la Bible nous annonce. Dieu merci, nous avons le choix de venir à lui. Et ces élus, ceux qui viendront à lui, ils vont obtenir le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Sauver des conséquences du péché, de la séparation pour l'éternité d'avec Dieu, pour les souffrances de l'endroit qui s'appelle l'enfer, qui est un endroit réel. Jésus en parle comme d'un endroit physique plus que n'importe quel autre endroit. et il y aura la gloire éternelle. Ça, c'est aussi des termes, on a du mal à les intégrer dans notre petite tête. Qu'est-ce que c'est que la gloire éternelle ? On sera en présence de Dieu, c'est la brillance, sa gloire qui illuminera la terre et les cieux, les nouvelles terres et nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem. La gloire, c'est le mérite reconnu, mais c'est aussi dans l'Ancien Testament, c'était ce qui était lourd, ce qui était réel, ce qui était du solide. Toutes les gloires ici-bas sont des gloires passagères, sont des choses futiles. Tel artiste va connaître la gloire et puis 20 ans plus tard, ce sera un has-been, un revenant. Des fois, on peut refaire des tournées 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, comme les Rolling Stones, mais c'est pas génial. Ça passe, la célébrité, le succès, mais en Dieu, il y a cette gloire éternelle. Il y a cette chose qui est en dehors du temps, à laquelle nous allons participer. Elle vaut tous les sacrifices. Elle vaut tous les sacrifices et les versets suivants vont nous dire justement que tous ces sacrifices, ils sont justifiés par le fait que il y a des promesses de bénédiction éternelle. Il annonce, verset 11, « Cette parole est certaine. » Donc, écoutez bien, vous pouvez être sûr de ce qui va suivre. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reliera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Car il ne peut se renier lui-même. On pense que c'était les paroles inspirées d'un cantique qui se chantait dans l'église du 1er siècle. Et je vous invite, vous les musiciens, peut-être à essayer de mettre ces paroles en musique. C'est toujours les meilleures paroles, d'ailleurs, si vous vous intéressez à écrire de la musique, de prendre la parole de Dieu et de la mettre en musique. C'est une excellente façon de mémoriser la parole. C'est une excellente façon de ne pas faire de faute d'hérésie ou d'hérésie. Parce que même s'il y a on va le voir, il peut y avoir des différences d'interprétation, ce que vous dites est parole d'évangile. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Vous voyez, vous pouvez mettre de la musique et chanter ces paroles. Parce que là, il y a une série de paradoxes. Paradoxes qui surprennent, mais qui en même temps inspirent confiance. Une des choses qui m'a toujours attiré au début de ma vie de chrétien, c'était les paradoxes. Alors paradoxe, para c'est autour, dox c'est la gloire. Doxa c'est la raison. C'est quelque chose qui a l'air pas logique. Celui qui arrive en premier, c'est celui qui arrive en dernier. Alors attends. Soit il arrive en dernier, soit il arrive en premier. Mais on sait que ça dépend qui juge de la course. Et il y a tout un tas de paradoxes. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est la mort qui donne la vie. Oh, ça, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. On le voit tous les jours. Lorsque les enfants à l'école du dimanche mettent des grains de lentilles dans du coton mouillé, ils vont voir que la mort de cette graine de lentilles qui va s'ouvrir, se décomposer, va donner la vie. C'est un paradoxe botanique. Et là, c'est un paradoxe spirituel. Si nous sommes morts avec lui, ça peut être une allusion au baptême dans lequel nous mourons symboliquement avec lui. Nous allons dans une tombe liquide avant de ressortir en vérité de vie. Mais c'est aussi le fait que si nous mourons en tant que chrétiens, nous mourons avec lui dans ce sens, nous aurons la vie éternelle avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On a dit que Paul avait persévéré, qu'il parlait du soldat, de l'athlète, du laboureur, que lui-même avait persévéré à travers toutes ces épreuves. Mais ce n'est pas pour rester dans la défaite, ce n'est pas pour rester dans la misère, c'est pour régner aussi avec lui. Encore un autre paradoxe. On persévère dans la difficulté et on va triompher. Waouh. Pour moi, ces paradoxes, ça ne peut pas avoir été inventé par des hommes. Parce que c'est trop surprenant, c'est trop ridicule, c'est trop pas logique, trop illogique, me diraient les puristes. Si nous persévérons, nous régnons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Jésus nous l'a déjà dit. Matthieu 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que je renie Dieu, Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce qu'il y a des moments où je me tais par peur? Du qu'en dira-t-on, par peur de représailles, par peur d'être mal vu par les autres. C'est très grave. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Alors il y a bien sûr cette question qui vous vient peut-être à l'esprit. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment renié Dieu, mais je ne sais pas ce que je ferais si j'étais persécuté et qu'on me dise de renier ma foi. En ce moment, il y a un pasteur iranien à qui on demande de renier sa foi pour qu'on lui laisse la vie. Alors là, je crois que nul d'entre nous ne peut savoir comment on agira. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire confiance à Dieu pour être très proche de nous et nous soutenir dans ces moments éminemment difficiles, des moments peut-être de vie ou de mort. Mais ça commence dans notre vie quotidienne. Est-ce que je parle de Jésus-Christ autour de moi? Pas seulement de Dieu. J'ai remarqué que quand on essaie de parler avec d'autres religions, les gens sont prêts à dire « Oui, on croit tous au même Dieu », notamment avec les musulmans. « Inch'Allah, oui, Dieu est bon et on a le même Dieu ». Je crois que l'idée de Dieu, du vrai Dieu, est dans toutes ces fausses religions, parce que Dieu a mis en nous le sentiment de l'éternité, il s'est révélé dans nos âmes. Mais ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu de l'islam, le Dieu du bouddhisme, ou le non-Dieu du bouddhisme, l'animisme, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et ce n'est pas de Dieu dont il faut parler, c'est de Jésus-Christ qu'il faut parler. Qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu le Père et qui agit avec Dieu le Saint-Esprit. Mais est-ce que je vous laisse répondre dans le, silence de mon cœur, est-ce qu'il y a des fois où je préfère changer de sujet ou pas dire les choses carrément ou me taire alors que l'esprit me dit mais vas-y, réagis. Et ça, c'est tout le monde est sujet à cette peur. Et puis il y a ce verset qu'on aime bien répéter entre nous. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et souvent on prend ce verset pour dire, c'est pas grave si je ne suis pas un bon chrétien. Dieu m'a promis plein de choses et il va tenir ses promesses parce qu'il ne peut pas promettre des choses. Ce n'est pas un homme pour dire quelque chose et ne pas l'accomplir. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc je suis tranquille. Alors, je crois à la persévérance des saints, au fait que si nous sommes vraiment sauvés, si nous avons une vie transformée par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous pouvons être tranquilles que Dieu... que Jésus-Christ va nous tenir, va nous garder. Il n'en a perdu aucun, il nous dit dans Jean 17, dans la prière au Père. Mais certains des commentateurs disent qu'en fait, peut-être que quand on prend ces versets pour s'encourager, on est en train de faire un grave contresens, parce que dans le contexte, il est question de renier Dieu. Donc si nous sommes infidèles, lui va demeurer fidèle à sa promesse de nous renier aussi, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors, il n'y a pas de réponse absolue. J'aime bien penser à la première version, qui est une vérité par ailleurs établie. Les miséricordes de Dieu sont renouvelées chaque matin. Il y a tout l'enseignement de la Bible nous dit que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous soutenir même dans notre faiblesse. Mais si vous vouliez savoir d'où vient ce verset, maintenant vous le savez, c'est 2 Timothée 2:13. La prochaine fois que vous priez, merci d'être fidèle Dieu, parce que quand je suis infidèle, toi tu es fidèle, tu ne peux pas te renier. Merci à Dieu de ce qu'il ne... ses paroles ne peuvent pas être reprises. Ses promesses sont éternelles. Et là, pour ceux qui sont intéressés, c'est un des exemples des choses que Dieu ne peut pas faire. Oh, je croyais que Dieu était tout puissant, s'il ne peut pas se renier, alors où est sa puissance? Non, il est tout puissant, mais en même temps, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui a des principes, Dieu merci, de vérité éternelle, un Dieu qui ne change pas. Et Dieu merci, il ne peut pas se renier lui-même. Sa parole, encore une fois, est digne de tous les sacrifices. On peut souffrir pour la parole. Comme un soldat, comme un athlète, comme un laboureur. On verra par la suite que Paul va continuer d'utiliser des images très, très prenantes. Paul essaye d'encourager Timothée, de lui montrer que tous ces sacrifices, c'est que des choses temporaires. Que... à bien réfléchir, le chemin de Jésus-Christ vers la gloire éternelle, ça c'est toujours passé par la souffrance avant le plaisir, la tristesse avant la joie, l'humiliation avant la glorification, la persécution avant l'exaltation, la croix avant et la mort avant la résurrection. La haine sur terre des hommes avant d'être adoré dans les cieux. C'est la logique biblique. On sème dans la douleur et on récolte dans la joie. Et ça montre encore une fois le terrible mensonge, les promesses insensées de la doctrine de la prospérité. Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est quelque chose qui a du succès parce que Ça vous promet des bonnes choses sans avoir à rien donner en retour, sans avoir à faire de sacrifices. Encore une fois, Dieu peut bénir sans nous faire souffrir, mais il nous prévient que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas un message très joyeux à recevoir, mais encore une fois, c'est tout est question de perspective. Est-ce que vous regardez à la goutte d'eau que représente la vie sur Terre ou à l'immensité de l'océan que représente l'éternité? Où est-ce que vous placez vos priorités? Nous n'avons qu'une vie, elle va vite passer, et tout ce qui va compter, et seulement ce qui va compter, c'est ce que nous aurons fait pour Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, même lorsqu'elle elle annonce des choses graves et sérieuses, qu'elle ne nous promet pas un jardin, un pique-nique, Seigneur, mais un combat, un travail, un dur labeur, Seigneur. Merci parce que, quelque part, nous sentons que c'est pas un faux évangile, Seigneur. C'est la vérité, c'est ta vérité, Seigneur. Mais ce sont aussi tes promesses. Ta grâce nous fortifie, nous pouvons nous fortifier en elle pour faire face à toutes ces épreuves, sachant qu'elles ont une valeur éternelle et qu'elles glorifient celui qui est prééminent. Seigneur, aide-nous à nous souvenir de toi. Aide-nous cette semaine, aide-nous aujourd'hui à nous souvenir de Jésus-Christ dans tous nos actes, dans toutes nos pensées. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous te perdons de vue, où nous t'oublions, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Et aide-nous à montrer le chemin du secours, à être ces BAES pour les gens qui nous entourent, Seigneur. Par ta grâce, par ta force, Seigneur, nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen.